Seul suffit. Il y a, je ne vous apprends rien, une quinzaine de jours, nous avons célébré Noël. Et Noël, c'est quoi? Eh bien, c'est la célébration de la naissance de Jésus. Marquant, on ne sait pas trop s'il est né le 25 décembre. Vraisemblablement, ça n'était pas le cas. Mais peu importe. Le fait est, c'est que Jésus est né, c'est que Jésus est venu, n'est-ce pas? Et bien sûr, c'est lui le personnage central de l'histoire de Noël. Mais en dehors du Seigneur Jésus, il y a un autre personnage, un personnage biblique, qui a eu une grande place dans cette affaire de Noël. Je veux parler, évidemment, de sa mère Marie, hein? C'est le cas de dire qu'elle était aux premières loges lorsque elle a mis au monde le Fils de Dieu. Alors, je vous invite à faire quelques lectures des récits bibliques et nous allons cet après-midi nous entretenir de Marie. Ne vous en étonnez pas, n'est-ce pas? Nous allons essayer de voir ce que la Bible en dit. Rien de moins, mais pas davantage, rien de plus. On va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er et au verset 26, si vous voulez bien, ce qui est écrit là, ce récit qu'on appelle de la visitation. Voilà, Luc, chapitre 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, et dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Puis on va au chapitre 2 et au verset 19. Voilà, chapitre 2, verset 19. Si quelqu'un peut m'apporter un verre d'eau, ce serait formidable. Je vois que Folie en a un à la main. S'il en a un, il peut en avoir deux. Alors, chapitre 2, verset 1er. Voilà, formidable. Merci, ma fille, tu es bien gentille. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Voilà. On accuse parfois les chrétiens évangéliques dont nous sommes, on les accuse de ne pas croire en Marie. Eh bien, c'est faux. Voyez, nous croyons tout ce que la Bible nous dit à son sujet. Et nous reconnaissons lui devoir un grand respect en tant que mère du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous devons aussi la considérer comme un exemple, comme un modèle dans bien des domaines. Alors, qui était Marie ? Très exactement, qui était Marie, non pas selon les légendes qui se sont brodées à son sujet, mais qui était Marie à la lumière des récits bibliques. Eh bien, c'était une toute jeune fille du pays et du peuple d'Israël. Vous savez, en ce temps-là, les jeunes filles étaient fiancées très, très tôt. Et certainement qu'elles devaient avoir quelque chose comme 15 à 16 ans, fiancées très officiellement, parce que chez les Juifs, les fiançailles étaient une cérémonie sérieuse, un engagement solennel. Fiancée donc très officiellement un homme certainement plus âgé qu'elle, Joseph. Nous notons, la Bible le signale, sa pureté. Elle était vierge, malgré le fait et du fait même qu'elle était promise en mariage, elle n'avait pas devancé les événements en ayant des relations prénuptiales. Non, l'Écriture dit quelque part dans l'Évangile de Matthieu que, voilà, eh bien, elle était restée vierge avant même qu'ils aient habité ensemble. Et puis nous remarquons sa foi. Parce que ce que l'ange lui dit, c'est absolument incroyable. N'est-ce pas ? L'ange vient lui dire, voici, en ton sein, Marie, eh bien, va être conçue miraculeusement par la puissance du Saint-Esprit, un enfant qui plus est, cet enfant, c'est un être exceptionnel, c'est le Fils de Dieu. Essayez un petit peu de vous mettre à la place de cette jeune fille, ça lui tombe sur la tête comme ça. Hein? Et la Bible dit que heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été promises de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Elle a cru que l'impossible allait devenir possible, selon la parole de l'ange, par la puissance de Dieu. Vous voyez, nous avons là un double miracle. D'abord, le miracle de la conception virginale. Elle est vierge, elle conçoit un enfant par la puissance du Saint-Esprit. L'intervention humaine n'y est pour rien, n'est-ce pas ? La trace de l'homme n'y est pas pour quelque chose. Et puis, miracle de l'incarnation, car cet enfant, c'est Dieu qui se fait homme. Vous voyez ? Parce que c'est cela, Jésus. Jésus, en venant sur la terre depuis le ciel, n'abandonne pas sa nature divine, mais à sa nature divine lui est ajoutée une nature humaine de par le fait de sa naissance. Ainsi, voyez, vous avez Là, le miracle de la conception virginale et le miracle de l'incarnation, nous le savons, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Alléluia. J'écoutais, je crois que c'était hier soir, un interview d'un ecclésiastique qui disait que le christianisme était la seule religion parmi toutes les religions qu'on rencontre dans le monde qui enseigne que c'est Dieu qui est venu à la rencontre des hommes. Et cet homme spécialiste de ces affaires-là disait que dans les autres religions, eh bien, on invitait l'être humain à faire un effort pour s'élever jusqu'à Dieu. Eh bien là, c'est l'inverse, mes amis. C'est Dieu qui vient jusqu'à nous. Ce n'est pas Dieu qui nous demande de faire des efforts désespérés pour essayer d'atteindre l'inaccessible, mais c'est Dieu qui condescend à venir à notre mesure, qui vient parmi nous, qui vient avec nous, qui assume en dehors du péché toutes les limitations humaines. On le voit quand on lit les récits, les textes évangéliques. Jésus, à l'exception du péché, a connu tout ce que nous avons connu. La faim, la soif, la fatigue, la nécessité de dormir, le travail, la douleur, la tristesse, etc., etc., etc. Il s'est rendu en toutes choses semblable à nous pour s'associer, pour manifester sa compassion, son intérêt à l'égard de notre personne. Quant à Marie, ce qu'on remarque aussi, c'est sa soumission à la volonté divine. Quand l'ange lui fait cette annonce incroyable, il se contente de dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Il aurait pu dire « Oh, doucement, mais si ce que tu es en train de me dire s'accomplit, il y a là pour moi beaucoup de renoncements auxquels je dois consentir, beaucoup de sacrifices que je dois accepter. D'abord, je risque fort, au travers de cette affaire, de perdre la confiance et l'amour de mon fiancé, Joseph. Que va-t-il dire lorsqu'il va apprendre que je suis enceinte? Il va dire que je l'ai trompé, que j'ai été infidèle. Ah, ange de Dieu, laisse-moi quelques instants de réflexion. » Non, pas du tout. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il pouvait perdre aussi sa réputation. Vous savez qu'en ce temps-là, avec l'adultère, on ne plaisantait pas, hein, puisque la loi de Moïse disait qu'une femme infidèle et une fiancée infidèle étaient considérées comme une adultère, eh bien, devait être lapidée. Certes, Dieu est intervenu. L'ange a été envoyé pour rassurer Joseph. Mais au moment où l'ange s'est adressé à Marie, ça, elle l'ignorait encore. L'ange ne lui a pas dit « Écoute, ne te fais pas de soucis, on va régler l'affaire. » Non, non, non. Simplement, il a délivré son message et puis ça a été à elle de le recevoir, de l'accepter, de manifester son esprit de soumission, son esprit de service et son sens du sacrifice. Bien qu'ayant le privilège exceptionnel de devenir la mère du Christ, la mère du Sauveur, l'instrument donc par lequel le Fils de Dieu allait paraître sur la terre des hommes, elle reste d'une grande humilité. Dans le chapitre 1er, le verset 48, elle parle de la bassesse de sa servante. « Tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante. » Sur la bassesse de ta servante. Elle reconnaît aussi qu'elle a besoin d'un sauveur. Chapitre 1er, verset 47, « Mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Quand on a besoin d'un sauveur, c'est quoi? C'est qu'on est pécheur, c'est qu'on est perdu. Il y a dans, il faut le dire, sans agressivité, mais enfin il faut dire les choses, dans la doctrine catholique, ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est cette doctrine qui veut que Marie aurait été elle-même conçue sans péché et qu'elle n'aurait, durant sa vie terrestre, jamais péché. Eh bien ça, mes amis, c'est faux. Parce que tous les humains sont des pécheurs, Marie y compris, et tous les humains à ce titre ont besoin d'un sauveur. Et de sauveur, il n'en existe qu'un seul. Alléluia. Ce sauveur, c'est Jésus, qui justement, lui-même étant sans péché, a pu se charger des nôtres et les expier sur la croix du calvaire. N'est-ce pas ? C'est de Jésus seul, dont il est dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Dans l'Épître aux Hébreux, il est encore écrit, n'est-ce pas, qu'il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur, c'est-à-dire un grand prêtre, qui soit saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Mais en dehors de cette exception unique, Jésus, tous les êtres humains, hommes et femmes, mari y compris, sont des pécheurs. Et à ce titre, je le répète, ont besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Lorsque l'ange la salue, il ne lui dit pas, contrairement à une traduction erronée, il ne lui dit pas « Marie pleine de grâce ». Pas vrai, ça. C'est pas ce que l'ange dit. Mais Marie, à qui une grâce a été faite. Ou, selon d'autres versions, Marie reçue en grâce. Marie qui a été l'objet de la grâce de Dieu. Elle n'est pas la dépositaire de la grâce de Dieu. Elle n'est pas celle par laquelle la grâce de Dieu va nous être communiquée, dispensée, non. Elle en a bénéficié elle-même, comme vous et moi, nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu. L'Écriture dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et dans le préambule de l'évangile de Jean, il est dit que la grâce et la vérité sont venues par qui ? Par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez ? C'est uniquement, on le sait, par la grâce de Dieu, c'est-à-dire sa faveur que nous ne pouvons pas mériter, que le salut devient possible. Et cette grâce, répétons-le, ne nous parvient uniquement qu'au travers de Christ. Il est là la source unique, n'est-ce pas ? L'intermédiaire exclusif auprès du Père. Est-il besoin, faisons-le encore, de renouveler ces versets que nous connaissons fort bien ? Jean, chapitre 14, verset 6. Hein, Thomas, vous savez, Thomas, c'était l'homme qui réfléchissait beaucoup. Hein. Alors Jésus dit, je m'en vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, attends, comment pouvons-nous en savoir le chemin puisqu'on ne sait pas où tu vas justement ? Et Jésus lui répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il ajoute quoi ? Nul ne vient au Père que par moi. Mes amis, avec une telle parole, on ne peut pas ajouter quelqu'un de plus. On ne peut pas ajouter notre intermédiaire. On ne peut pas ajouter quelqu'un qui viendrait compléter l'œuvre inachevée ou partielle de Jésus. Non, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul, personne ne vient au Père que par moi. Dans Actes chapitre 4, verset 12, Pierre et son collègue Jean sont traduits devant le Sanhédrin, le tribunal suprême chez les Juifs. Il risque gros, hein. C'est ce tribunal qui a condamné Jésus à mort. Mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ne tremblent pas. Ils sont pleins de hardiesse, pleins de force, pleins d'autorité spirituelle. Et à ces juges, n'est-ce pas ? Et ils leur répondent en disant, mais Jésus, c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Alléluia. Encore un autre texte. 1 Timothée, chapitre 4, versets 2, 5 et 6. Chapitre 2, versets 5 et 6, pardon. Hein? L'apôtre Paul écrit, inspiré par le Saint-Esprit, « Il y a un seul Dieu. » Tout le monde est à peu près d'accord, là. Hein? Les juifs, les musulmans, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, et même nous. Hein? Mais ce n'est pas fini. Il y a un seul Dieu. Et aussi, un seul intermédiaire, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est livré lui-même en rançon pour tous. Mes amis, ces paroles, elles sont claires comme de l'eau de roche, oui ou non ? Il faut être aveuglé, ou alors de mauvaise foi, pour ne pas comprendre que le salut nous est offert en Jésus, et en Jésus seul. Et ça n'est pas, comment dire, mépriser Marie que d'affirmer que ce n'est qu'au travers de Christ, le Fils bien-aimé du Dieu vivant, que nous pouvons accéder au salut. Vous voyez, ces versets, je les connais, moi aussi, mais rien que de les dire, ça me fait du bien, moi. Hein, parce que c'est la vérité. Parce que lorsque nous fondons notre espérance sur la personne de Christ, on est sur un terrain solide, alléluia, sur un roc ferme, inébranlable. Lui seul a la capacité de nous sauver de nos péchés, car lui seul s'est offert en rançon sur la croix pour les expier. C'est donc en lui seul que nous devons mettre notre foi, personne d'autre, pas même Marie, quel que soit le respect que nous lui devons, parce que lui seul est en mesure de nous obtenir le pardon du Père. Le pardon du Père. Vous voyez ? Lorsque le brigand sur la croix tremble à la perspective de la mort, il sait très bien, cet homme, que dans quelques heures, il va comparaître dans le Tout-Puissant. Et répondant à son compère qui insulte Jésus, lui dit, « Mais ne crains-tu pas Dieu ? Pour nous, c'est justice. On reçoit ce qu'on a mérité. On reçoit ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. »